On est ensemble. Nous sommes ensemble. J'ai croisé une sœur en montant dans les escaliers tout à l'heure qui m'a dit je viens, je ne peux plus être seule. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous aime. Et nous sommes ensemble. Voilà, alors tout est possible. Alléluia, je vais simplement prier pour vous permettre avant de commencer. Seigneur, ce chant est merveilleux. Pour moi, rien n'est comparable à toi. Mon cœur est ému, Seigneur, par ces paroles, parce que c'est tellement vrai. Et en même temps, les mots que nous pouvons prononcer dans ces chants ne suffisent pas, Seigneur Jésus, à dire ce que nous éprouvons par toi, Seigneur, et même au-delà, nous n'éprouvons pas encore la plénitude de ce que nous pouvons éprouver devant un être tel que toi. Parce que nos cœurs sont encore, ne sont pas encore libres, mais nous présentons ta gloire, Seigneur, elle est si grande, ton amour. Et si merveilleux, nous aspirons comme des biches, nous avons tellement soif d'embrasser enfin la plénitude de ton être, de ton amour, de tout ce que tu es. C'est de toi et de toi seul que nous avons besoin. Tu es l'être adorable, l'être admirable, bon et pur que nous désirons. Et nous t'adorons ce soir, Seigneur. Alléluia. Bénis, s'il te plaît, chacune, chaque femme ici présente, chaque jeune fille. Chaque vie est un univers, chaque vie est précieuse à tes yeux. Tu as mis le souffle de vie dans une existence, Seigneur, et cette existence t'est tellement chère. Jamais tu n'abandonnes une existence dans laquelle tu as mis ton souffle de vie, Seigneur. Jamais, Seigneur. Tu es le fidèle parmi les fidèles. Merci pour ton amour pour nous. Bénis chacune ici ce soir. Bénis-nous dans ta présence. Et conduis-nous, Seigneur, plus loin. Alléluia. Alors ce soir, c'est pour la quatrième fois que l'on se réunit depuis le mois de septembre. Et comme ça fait quand même depuis décembre, le 17 décembre qu'on ne s'est pas vu, le temps est un peu passé, ça fait plus de 2 mois. Alors, si vous permettez, on a pensé en tout cas avec les sœurs que ce serait bien de rappeler ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous apporte quelque chose qu'on rappelle les réunions précédentes? Déjà, je pense que il y a tant qui passe, on peut oublier certaines choses. On n'a pas forcément pris des notes. Et puis, par ailleurs, certaines d'entre nous ne peuvent pas venir à chaque réunion ou ne sont pas venues depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais procéder à ce rappel de ce que le Seigneur nous a de ce dans quoi il nous a déjà guidés depuis le mois de septembre. Voilà. Alors, peut-être que je peux faire autrement et demander à une sœur qui est-ce qui voudrait venir ici prendre le micro. Qui a envie de faire ça, de rappeler aux autres sœurs, de nous rappeler à toutes, parce que moi après j'ai encore beaucoup parlé. Je veux bien laisser la parole à quelqu'un. Qui a envie de quelqu'une plutôt. Personne n'était là depuis les 3 dernières fois peut-être. Non, il n'y avait personne. C'est la timidité. C'est moi qui fais le rappel alors? D'accord. D'accord. Donc, la première fois que nous nous sommes vus, notre réunion s'intitulait l'appel de Dieu. Entre parenthèses, vouloir. Vouloir répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous a lancé un appel et nous avons partagé avec vous ce que nous avions reçu à cœur avec les femmes qui préparent ces rencontres. c'était de conduire notre groupe, les femmes de cette église, celles qui le souhaitent en tout cas. C'est le désir du cœur de Dieu de nous conduire vers un but et vers une promesse qu'il a pour nous. Et nous avons rappelé que le but de notre existence, en tant que chrétien, chrétienne, le but de notre existence, c'est de connaître Dieu et c'est de participer à la réalisation de son royaume et à l'avènement de son règne. En fait, ces mots-là semblent un petit peu constitutionnels, mais royaume et règne, en réalité, vous pouvez remplacer ça par tout ce que je désire au plus profond de mon être. C'est la personne même de Dieu, en fait, son royaume. Christ est lui-même le royaume. C'est lui. Vous pouvez donc remplacer le règne de Dieu, le royaume de Dieu par Christ, par tout ce qu'au fond de vous, vous ressentez que vous désirez ardemment, en fait. Que vous désirez atteindre, que vous désirez embrasser, vivre. Alléluia. Et voilà, le dessein éternel de Dieu, c'est d'établir son règne parmi les hommes et les femmes. Mais pour atteindre le règne et préparer le règne, il nous faut le voir. Il nous faut le voir, il nous faut avoir conscience de ce que c'est avoir cette vision spirituelle. Et aussi le fardeau du règne. Un fardeau, c'est bon. Hein. C'est un zèle que nous avons dans nos cœurs. Et le Seigneur, lui, nous donne une vision. Et la vision qu'il nous donne, elle est dans le passage du prophète Ézéchiel, chapitre 37, que nous avons partagé depuis le début de ces rencontres, depuis le début de la saison. On va le relire, bien sûr, voir cette fois quelqu'un qui veut prêter sa voix à ces paroles merveilleuses. Le fil est assez long. C'est moi qui me déplace vers vous. Alors, qui veut nous lire Ézéchiel 37? Pas tout le chapitre, hein, bien sûr. Merci, merci.
Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. »
Merci. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous donne et nous annonce. Dieu est un Dieu qui annonce ce qu'il veut faire. Et il nous adresse cette parole prophétique dans Ézéchiel 37 que notre sœur Chantal vient de lire. Le Seigneur veut, nous l'avons vu, lever parmi ces femmes de cette église une armée. Il veut lever son armée parmi les femmes. Il le fait, il le fera certainement. Une armée de femmes dans cette église, des femmes pleines de sa vie, mais des femmes aussi restaurées. Et c'est ce qu'il veut d'abord faire. Parce qu'avant d'aller au combat, eh bien, on doit d'abord marcher sur ses deux jambes. On ne peut pas aller au combat avec... Des handicaps, diverses infirmités, maladies, pieds et poings liés parfois. Non, on va au combat restauré. Et cela veut dire que ce qui est promis dans ce passage d'Ézéchiel n'est pas encore manifesté parmi les femmes. Ce qui a été promis n'est pas encore manifesté. Mais Dieu va le manifester. D'abord Il veut nous restaurer. C'est la priorité d'aujourd'hui pour les femmes de cette église. Parce que Dieu voit dans quel état sont nos vies. Il considère et il voit depuis des années, il sait exactement dans quelles conditions nous vivons, dans quelle situation nous sommes, dans nos existences, à tous les niveaux de nos vies. Il sait toutes choses. Il veut agir. Il veut manifester sa restauration, pleine et entière, esprit, âme et corps, les trois parties de notre être. Aussi, donc, nous croyons qu'à chacune de ces rencontres, il va nous guider étape par étape vers cette restauration et ensuite vers la réalisation de cette promesse. Nous, les femmes de cette église, une armée vivante et efficace pour son règne, pleine de vie dans la plénitude de sa vie et qui concourt à la réalisation de son plan pour cette église, pour cette vie, pour ce qu'il veut. Il nous révélera les choses au fur et à mesure. Alors, lors de notre toute première rencontre au mois d'octobre, ou septembre, je ne sais plus si c'était septembre ou octobre, nous avons répondu à cet appel. Toutes celles qui étaient là ce jour-là, cette première fois, ont répondu. Et d'un commun accord, nous avons dit oui. Donc, c'était en septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février. Est-ce que nous disons encore oui? Est-ce que nous continuons de dire oui au Seigneur? Amen. Oui. Oui, Seigneur. Dans ce cas, nous pouvons poursuivre notre route. La deuxième réunion que nous avons partagée ensemble, vécue ensemble, était intitulée « Que la lumière soit ». Et là, il s'agit de voir, parce qu'après l'étape du vouloir, il y a autre chose qui vient. Ça ne suffit pas de vouloir s'engager dans le plan de Dieu, mais Dieu veut nous montrer des choses. La suite, c'était ça. Il faut aussi voir, oui, mais voir quoi ? Voir quoi ? La réponse, elle est dans le passage d'Ézéchiel. Nous avions vu, nous avions souligné en particulier ce verset 2. Le verset 2 du chapitre 37, « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, auprès des eaux desséchées. » Il me fit passer d'eux, la sœur l'a lu tout à l'heure, le Seigneur fait passer Ézéchiel auprès des eaux desséchées, tout autour, pour lui montrer, il lui montre. Et le prophète constate, et voici, ils étaient complètement secs. Donc il voit, il voit. Comme il l'a fait avec Ézéchiel, le Seigneur veut nous montrer dans quel état nous sommes. Il veut faire avec nous un état des lieux. Un état des lieux. Et nous ne devons pas craindre de regarder et de voir ce qu'il veut nous montrer dans nos vies. Il y a des choses que nous avons déjà vues. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. Il y a des choses que nous avons vues seulement en partie. Nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg. Nous n'avons pas vu la racine. Le Seigneur veut nous montrer ce qui est utile pour notre restauration. Là encore, à nous de dire oui et de nous laisser éclairer. Et c'était l'appel de cette deuxième réunion, c'est veux-tu te laisser éclairer par la lumière de Dieu, parce que seule sa lumière peut nous montrer cela. C'est seulement quand le Seigneur est passé au-dessus des eaux qu'Ézéchiel a vu, il l'a transporté pour lui montrer. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas voir quoi que ce soit en fait. Nous ne voyons pas clairement. Cependant, dans cette prise de conscience dont on a besoin, grâce à l'intervention de la lumière de Dieu, cette prise de conscience, elle est nécessaire et elle est une condition préalable à la restauration. Avant toute restauration, il y a une étape de prise de conscience, voire de plusieurs prises de conscience. Elles sont parfois douloureuses, parfois nous résistons aussi, parce qu'il est difficile d'admettre certaines choses, de voir certaines choses face à face. Mais Dieu est doux. C'est un être doux, sa douceur nous emmène là où il veut. Attention cependant, dans cette étape du voir, quand nos yeux s'ouvrent, que nous avons accepté que nos yeux s'ouvrent, que Dieu ouvre nos cœurs, attention de ne pas penser que ce travail vient de nous-mêmes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas là d'une introspection forcené de nous-mêmes, d'un travail personnel d'introspection forcené où nous allons vraiment tout décortiquer nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en mouvement notre intelligence et notre réflexion, bien sûr. Nous devons ouvrir notre cœur et notre intelligence à regarder. Mais tout cela se fait sous la conduite du Saint-Esprit. C'est sous la conduite du Saint-Esprit, parce que uniquement faire ce travail par nous-mêmes nous conduirait vers une chute certaine. Nous avons besoin en fait de l'accompagnement de l'œuvre du Saint-Esprit pour nous guider dans cette recherche-là. Donc oui, ouvrons nos yeux, ouvrons notre intelligence, ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut nous montrer, réfléchissons à nos voies, aux voies que nous avons empruntées dans notre vie, aux voies que nous empruntons aujourd'hui, sous la conduite, sous la direction du Saint-Esprit. On s'en remet à lui en faisant ce cheminement-là. On s'appuie sur lui, on ne porte pas ça nous-mêmes. Et si nous l'acceptons, si nous avons accepté cela, si vous avez accepté cela, de vous laisser éclairer par la lumière du Seigneur, avec honnêteté, vérité, alors, normalement, le Seigneur a commencé à nous montrer, à vous montrer les choses, à vous éclairer dans vos vies, à vous rendre sensible à certaines choses que vous ne voyiez pas ou que vous ne voyiez plus peut-être. Normalement, le Seigneur a commencé ce travail dans nos vies. Et à ce moment-là, lorsque nous avons vu telle ou telle chose qui ne va pas dans nos vies, qui a besoin de restauration, nous sommes aussi remplis d'une conviction du besoin de changement, d'une conviction. C'est-à-dire, vous voyez le problème, vous n'êtes pas seulement désolé par le problème, mais le Seigneur nous remplit, c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, que nous ne devons pas faire ce travail seul, parce qu'à ce moment-là, une fois que nous avons vu, il peut y avoir de la souffrance, de la douleur, de la difficulté à voir ce que nous voyons, mais le Seigneur nous remplit d'une force, c'est-à-dire d'une conviction, d'un désir profond de changement. Vous savez, le désir de changement, disant oui, non, là, ça ne peut plus durer. Et quelque chose se saisit de vous, c'est cette puissance de l'esprit qui vous remplit et qui vous convainc que oui, ça doit changer et ça va changer. Et ça va changer, vous voyez ? Cette puissance de conviction est bien du Saint-Esprit. Ensuite, c'était la dernière rencontre que nous avions eue, qu'on avait intitulée « La foi dans l'impossible ». Croire. D'abord vouloir, ensuite voir et croire. Oui, croire. C'est la suite logique. Et on le voit dans le passage, lorsque le Seigneur demande à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et nous avions vu la réponse d'Ézéchiel, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia! Nous avions vu que la réponse d'Ézéchiel, Seigneur, tu le sais, méritait vraiment d'être commentée, de s'arrêter dessus. Et on s'était demandé, mais est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Est-ce que c'est une réponse de foi? Seigneur, tu le sais. Ézéchiel n'a pas dit, oui, alléluia, Seigneur, tu vas le faire. Gloire à Dieu! Non, Ézéchiel n'a pas parlé ainsi. Ézéchiel a répondu simplement, Seigneur éternel, tu le sais. Quelle phrase d'adoration merveilleuse! Et c'est exactement le genre de réponse que le Seigneur attendait de la part de son serviteur. C'est la réponse d'un homme, nous l'avions vu, qui est brisé, qui ne se précipite plus pour dire « Moi, je crois, moi, je sais. Oui, Seigneur, alléluia. » Parce que c'est un homme qui n'a plus rien, il n'a plus aucune assurance personnelle. Ce qu'il a vu l'a complètement dévasté. Ce qu'il a vu, la scène que le Seigneur lui a montré, ses eaux desséchées. Cet homme est brisé devant cette vision. Il est complètement dévasté, désolé. C'est un homme écrasé par cette vision. Et en même temps, le Seigneur fait naître en lui justement ce vent du changement, ce désir de changement qui monte en lui. Donc il y a dans Seigneur, tu le sais, il y a cet abandon, il y a ce relâchement, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire? Je n'ai rien. Seigneur, tu le sais, je n'essaye même plus de te prouver que je crois en toi. J'essaye même pas de te montrer que je suis encore un homme de foi. J'en ai même pas besoin. Parce que ce que j'ai, ce n'est pas ma foi, mais c'est toi et toi seul. Je ne regarde même pas au fait de savoir si j'ai la foi ou pas. Ça ne m'intéresse même plus. Mais je tais-toi, Seigneur. Tu le sais. Seigneur éternel, il y a là l'adoration d'un homme. Tu le sais. Cet homme se remet entièrement à Dieu. Et c'est ce genre de foi, nous avons vu, que Dieu veut faire naître en nous. Cette foi complètement dépouillée, pure, qui arrive lorsqu'on n'a plus rien d'autre que Dieu. Lorsqu'on n'a plus rien. C'est la foi qui naît dans les cendres du désespoir le plus profond devant une situation. Prenons garde, cependant, là encore, de penser que nous pourrons atteindre cet état d'esprit par nous-mêmes. C'est impossible. En arriver là, dans cet état d'esprit-là, de dépouillement total, d'abandon à Dieu, une foi abandon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer. On peut le désirer, on peut dire, mais finalement, oui, c'est là la vraie liberté, il y a là quelque chose. Oui, j'aimerais en arriver là, c'est ce type de foi. Mais je ne peux pas le faire, nous sommes purement et simplement incapables, par nature, d'être comme ça. Parce que par nature, nous ne savons pas nous abandonner. Donc c'est le Seigneur qui va nous emmener là. Rassurez-vous, il va pas forcément faire tomber sur vous une série de catastrophes pour que vous en arriviez là. C'est un travail qui se fait dans le cœur. C'est un travail qui se fait dans le cœur, même au travers de toutes petites choses de la vie. Le Seigneur travaille et il nous emmène là, là, à cet endroit-là, où il ne reste plus que lui et nous. On ne compte plus sur rien d'autre, sur personne d'autre, même pas sur nous-mêmes, certainement pas sur nous-mêmes. Et ça, vous savez, on le désire, on le chante, on le prie, mais dire que c'est la réalité, c'est une œuvre de l'esprit, c'est un miracle. Je vous assure, en arriver vraiment là, que ce soit vrai, hein, pas juste l'idéal, oui, il y a des mots qu'on prononce et auxquels on aspire, mais que ce soit réel dans nos cœurs, ça c'est un miracle. Que Dieu qui peut faire ça. Donc n'essayons pas d'en arriver là par nous-mêmes, demandons-le au Seigneur, il va nous y conduire. C'est lui qui nous emmène là, à ce stade ultime. Voilà, là où nous en étions arrivés la dernière fois. Est-ce qu'il y a, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions? Parce que trois réunions se sont déroulées, on a partagé quand même beaucoup de choses, on a vécu des moments précieux ensemble. Bien sûr, il y a des temps d'échange après le message, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à tout ce que nous avons partagé? Faut pas hésiter à les exprimer là, maintenant, tout de suite, ou après, comme vous voulez, mais n'hésitez pas surtout. Il n'y a aucune question? Aucune interrogation, remarque? Alléluia. Ce soir, nous entrons donc dans une nouvelle étape en suivant toujours notre feuille de route d'Ézéchiel 37. Et nous avons pensé que ce serait bon d'intituler donc le sujet de cette rencontre ce soir « S'approprier la promesse ». S'approprier la promesse. Et donc tout commence toujours par la parole. Revenons à la parole que Dieu nous donne. Au verset 4, donc après que, vous voyez, Ézéchiel eut répondu à la question du Seigneur, qui lui demandait, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux pourront revivre? Et après qu'Ézéchiel eut répondu au Seigneur, mais Seigneur éternel, tu le sais. Tu le sais. C'est à la fois adoration, abandon. Foi absolue et abandon absolu. Tu le sais, ça veut dire aussi, moi je ne sais rien. Mais ce que je sais, c'est toi. Je sais que toi. Voilà. La véritable espérance. Après cela, donc juste après cela, le Seigneur s'adresse à Ézéchiel à nouveau et lui dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Qu'est-ce qui se passe ici? Que fait le Seigneur? Que demande-t-il à Ézéchiel? Il lui dit, prophétise sur ses eaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Prophétise, il lui ordonne de prophétiser. Est-ce qu'il s'arrête là? Non. Il lui dit ce qu'il doit dire. D'accord? Le Seigneur ordonne quelque chose à Ézéchiel. C'est un ordre. Il lui dit, prophétise. Prophétise sur ces eaux que je viens de te montrer là, que tu as vu, ce que tu as vu. Maintenant, prophétise sur ce que tu as vu. Vous voyez l'étape du voir. Nous avons vu. J'ai vu des choses dans ma vie. Prophétise sur ces choses que tu as vues. Et dis ceci. Et là, le Seigneur donne la parole de sa propre bouche pour la mettre dans la bouche d'Ézéchiel. Il dit la parole qui est la sienne, puisqu'il dit « Écoutez la parole de l'Éternel ». Donc, il est en train de donner à Ézéchiel sa propre parole, ce qui est dans sa propre bouche. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le Seigneur donne à Ézéchiel, il lui dit prophétise et il lui dit ce qu'il doit prophétiser. Qu'est-ce qu'il doit prophétiser? Il doit prophétiser quoi? La parole. Il doit prophétiser la parole. La parole de l'Éternel appropriée à cette situation, appropriée à cette scène de dévastation, de désolation. Il y a une parole appropriée. C'est cette parole-là qu'il doit prophétiser. Dieu ordonne quelque chose. Quand Dieu ordonne, qu'est-ce que nous devons faire? Obéir. Obéir. L'ordre de Dieu est vraiment très étonnant, vous ne trouvez pas? Parce que quand on réfléchit bien, cela revient pour Dieu à dire « Je te commande de commander. Je te commande de commander. Je t'ordonne de commander maintenant. » C'est surprenant quand même, non? Nous devons obéir. Obéir revient à commander. Nous devons commander, et si nous commandons, alors nous obéissons. La première question, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, pourquoi veux-tu que Ézéchiel prophétise? Et s'agissant de nous, pourquoi devrions-nous le faire? Pourquoi devrions-nous prophétiser? Après tout, le Seigneur annonce sa promesse. Il dit qu'il va faire entrer en nous un esprit que nous allons vivre, qu'il va nous donner des nerfs, faire croître sur nous de la chair, nous couvrir de peau, mettre en nous son esprit, un esprit, et que nous vivrons. Le Seigneur annonce cette promesse. Il aurait pu simplement annoncer sa promesse et puis l'accomplir, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, voilà ce que je vais faire, et puis ensuite le faire, tout simplement. Pourquoi est-ce que tout simplement il n'a pas dit et accompli? Pourquoi est-ce que entre les deux, il dit la chose, et puis maintenant il nous dit, toi maintenant, dis la chose? Vous trouvez que c'est un procédé habituel? Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous faisons cela, nous?
si on comprend bien l'enseignement, donc pour opérer un miracle quelconque, donc il faut d'abord entendre la voix de l'Éternel avant de le lire. Ou de mettre seulement la parole de Dieu en pratique.
Mm-hmm. La base, c'est la parole de Dieu, si tu veux redire. Merci. C'est pour l'enregistrement.
Bon, je, par rapport à l'enseignement, je voulais poser la question. Si pour opérer un miracle quelconque, est-ce qu'il faut obéir tout simplement à la parole de Dieu ou il faut entendre le Logos, que Dieu te parle?
Nous ne pouvons pas obéir à quelque chose que nous ne connaissons pas. La foi vient de ce qu'on entend, et après la foi vient l'action. Donc il faut d'abord entendre, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé ici. D'abord, le Seigneur a dit. Il a dit ce qu'il a sur son cœur. Il a dit ce qu'il veut faire, ce qu'il va même faire. Mais au lieu de le faire, non. Il dit, je vais faire ça. Est-ce qu'il le fait? Non. Il dit, maintenant, toi, dis la chose. Dis ce que j'ai dit. Dis, je vais faire quelque chose sur les eaux desséchées. Maintenant, toi, parle aux eaux desséchées. Dis-leur de ma part ce que je vais faire, ce que je vais leur faire. C'est ce qu'il nous demande.
Notre participation.
Notre concours, oui. Il nous implique. Il nous implique, et d'une façon très particulière. Est-ce qu'il a demandé à Ézéchiel de dire, est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'il aurait pu dire, bon, Ézéchiel, je vais faire ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On aurait pu dire que notre accord suffit. Oui, Seigneur, amen, je suis d'accord avec toi. Fais-le, Seigneur. Non, le Seigneur n'a pas demandé s'il était d'accord. Le Seigneur a dit de répéter, de redire, de se faire le porte-parole de Dieu. Il a demandé à ce serviteur, à ce prophète Ézéchiel, de se faire le porte-parole, son propre porte-parole, et d'exécuter lui-même par la parole ce qu'il avait décrété. Donc on peut se poser cette question, et c'est vraiment intéressant de s'arrêter là, le pourquoi. Parce que ça débouche sur des réponses très intéressantes. Déjà, nous constatons que Dieu veut nous faire participer, oui. Mais de quelle façon exactement? Par notre parole. Notre parole, notre bouche, notre parole doit être impliquée. Prophétiser, ça ne se dit pas à l'intérieur. Prophétiser, ça veut dire proclamer, dire à haute voix, annoncer, confesser. C'est une confession. Dieu nous demande de confesser de notre bouche. Vous connaissez ce verset qui dit « Si tu crois et si tu confesses de la bouche, tu seras sauvé. » Lorsque nous croyons, ce qui était l'étape précédente, la foi dans l'impossible, croire, la suite logique après avoir cru, croire que Dieu est tout, peut tout, que je n'ai plus que lui, c'est lui, je crois. L'étape logique après, c'est de confesser ce que je crois. Je confesse avec ma bouche. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. Donc, premièrement, il y a un principe spirituel, le principe de la parole. Nous savons que Dieu est parole, que le Seigneur Jésus est parole, parole de Dieu. Mais nous avons été créés à son image, dans Genèse. Il est dit que nous avons été créés à son image. Ça veut dire que nous avons reçu la puissance de la parole, à l'instar de Dieu. C'est le même principe spirituel. Il n'y a aucune différence. Aucune. Nous, êtres humains, avons reçu la puissance de la parole. C'est un pouvoir qui nous a été donné une fois pour toutes. À l'image de Dieu, nous l'avons. Et la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la parole de Dieu nous dit aussi, dans Jacques, que la langue, c'est le gouvernail de notre être. À partir duquel toute notre vie sera conduite, dirigée. Donc c'est un instrument très puissant et stratégique. Dieu implique cet instrument, cette partie de nous, notre parole. Il implique et il nous ordonne de nous impliquer par notre parole. C'est un grand principe spirituel. L'autre principe spirituel qui se dégage, c'est l'obéissance. l'obéissance. Dieu veut que nous lui obéissions lorsqu'il nous demande quelque chose. Et là, ce qu'il nous demande, qu'est-ce que c'est finalement ? Il nous demande de nous conformer, de conformer notre parole à sa parole. Ça, c'est obéir. Dieu dit quelque chose. Obéir, ici, ça veut dire conformer ma parole à moi, à sa parole à lui. Et conformer ma parole, ça passe par le fait de le dire, de le prophétiser, de le proclamer, de le confesser. J'obéis lorsque je fais cela. Je m'aligne sur la parole de Dieu. Je m'aligne, je me soumets. Vous connaissez ce passage qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Se soumettre à Dieu, c'est ça. C'est conformer notre parole, donc notre pensée, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si je dis quelque chose, ça vient de l'abondance de mon cœur. Donc en parlant, j'ai conformé et ma parole et ma pensée à celle de Dieu. Donc je me suis soumise. C'est ça se soumettre, se mettre sous la parole de Dieu. Je dis la même chose que Dieu. Je pense la même chose que Dieu. Ce que je dis, c'est ce que je pense. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche doit parler. Elle doit parler de l'abondance de mon cœur qui a été touché, convaincu par Dieu lorsqu'il m'a montré ces choses et lorsqu'il m'a parlé. Donc, la langue, le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole humaine, l'obéissance, c'est une question c'est une question de parole et c'est une question d'obéissance. Mettre tout mon être en harmonie avec la pensée, la volonté, le projet, la parole de Dieu. Donc ce n'est pas simplement un exercice scolaire de répéter, il ne s'agit pas de répéter ce que Dieu a dit. Non, non, c'est beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet. Bon, ben voilà, Dieu a dit, je prendrai... Non, 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 non. Je m'approprie ce qu'il a dit. Ça pénètre profondément mon cœur et je le ressors par ma bouche. Je suis remplie à ce moment-là de cette pensée, de cette parole. Je la fais mienne. Ce qui est à Dieu devient à moi. D'accord ? Je fais un avec la pensée de Dieu à ce moment-là. Ça, c'est vraiment le secret de l'exaucement. Et aussi de la puissance spirituelle. En tout cas, il n'y a pas que cela, mais ça en fait partie. C'est essentiel. Donc Dieu, dans tout cela, veut que j'aie ma part. Nous voyons que Dieu veut que j'aie ma part. Dieu a annoncé ce qu'il va faire et il va le faire. Maintenant, il veut que j'aie ma part là-dedans. D'accord, il y a le principe spirituel de la langue. Très bien, il y a le principe spirituel de l'obéissance. Je comprends. Donc, Seigneur, pourquoi tu attends cela de moi ? Il faut que je confesse de ma bouche. La bouche est importante, la parole, l'obéissance. Très bien. Est-ce que c'est tout d'après vous ? Est-ce que ça s'arrête là ? Pourquoi Dieu veut-il que je fasse cela ? Pourquoi veut-il que je parle ? Pourquoi veut-il que je fasse ça ? Au fond, qu'est-ce qu'il me demande ? Il me demande de faire comme lui. C'est ça qu'il est en train de me demander. Il est en train de dire, Ézéchiel, voici ce que je vais faire. Fais comme moi. Fais ce que je fais. Dis ce que je dis. Dis ce que moi je dis. Mais pourquoi Dieu veut que je fasse comme lui ? Pourquoi Dieu veut que je dise ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Où il veut m'emmener ? Quel est son but ? Il veut qu'on le suive. Oui, ça c'est l'obéissance. La logique implacable de Millet. Amen. Nous avons été faits à son image. Voilà la réponse. Regardez depuis les origines de la création humaine. Dieu nous a créés à son image. Si Dieu nous a créés à son image, ce n'est pas juste par coquetterie. C'est qu'il y a un dessein profond, un désir profond de Dieu que nous lui ressemblions. Il veut que nous soyons comme lui. Il a toujours voulu. Il a toujours voulu que nous soyons comme lui. Dieu n'est pas avare de ce qu'il a, il veut le partager, il veut le répandre. Il veut que nous soyons comme lui, c'est son projet, c'est son dessein. Et ce dessein a été entravé. C'était parti dans cette direction-là. Dieu avait dirigé les choses. La ressemblance était la première étape. Ensuite, il devait y avoir la filiation qui est venue. Et la filiation est encore plus profonde que la ressemblance. Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous soyons son prolongement. C'est cela que Dieu veut. Dieu ne veut pas seulement nous restaurer. Il veut nous délivrer de nos eaux desséchées. Oui, il veut nous restaurer, il veut résoudre notre problème. Il veut le résoudre. Mais en plus de cela, il veut nous enseigner quoi ? Il veut nous enseigner, il veut que nous sachions qui nous sommes. Il veut que nous sachions qui nous sommes. Il est en train d'enseigner Ézéchiel. Il est en train de l'enseigner. Fais comme moi. C'est-à-dire, prends conscience de qui je veux que tu sois. Je veux que tu sois comme moi. Voilà ce que je veux que tu sois. Et nous recevons cet enseignement. Le Seigneur veut que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes ses héritiers, ses héritières. Nous avons reçu de lui tout en Jésus-Christ. Nous sommes les prolongements de lui-même par Jésus-Christ. Nous sommes le prolongement de Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ sort de Dieu et nous aussi nous sortons de Christ. Dieu veut que nous sachions qui nous sommes. Donc il y a là aussi une question d'identité profonde du chrétien. Lorsque Dieu nous appelle à prophétiser, à proclamer, à confesser, il veut que nous devenions sa bouche. Un prolongement de lui-même, en quelque sorte. C'est extrêmement important. Jésus n'a fait que cela pendant son passage sur la terre. Il n'a fait que cela. Il n'a fait qu'obéir au Seigneur en prenant autorité au nom de son Père pour le glorifier parce qu'il savait qui il était. Jésus-Christ savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils du Père. Il parlait de son Père et donc ça voulait dire qu'il se proclamait comme son Fils. Et en tant que son fils, puisqu'il savait qu'il était son fils, il faisait comme son père. Et il disait sans arrêt, je fais ce que j'ai vu faire au père. Je fais ce que j'ai vu faire au père. Vous vous souvenez? Je fais comme le père m'a montré. Je fais ce que j'ai vu faire à mon père. Pas à mon père. C'est le même enseignement ici. Nous faisons comme le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Fais comme moi, prophétise. Il aurait pu s'en passer, mais non. C'est parce qu'il veut nous amener dans cette dimension, dans cette identité. Il veut que nous prenions conscience de qui nous sommes. Il ne veut pas seulement nous bénir, il ne veut pas seulement nous guérir, nous restaurer, résoudre notre problème. Ça, c'est une partie. Mais la plus importante encore, plus importante encore sur le cœur de Dieu, c'est cela. Par-dessus tout, il veut que nous sachions qui nous sommes en lui. Notre identité. Alléluia. Dieu, donc, demande que Ézéchiel parle lui-même, il ouvre sa bouche lui-même. Mais une autre question là, une autre objection pourrait être soulevée par Ézéchiel et par nous, puisque nous nous identifions à Ézéchiel ici. Mais on pourrait dire, mais Seigneur, tu vois pas que je suis complètement ravagée par ce que je viens de voir là? Je suis au 36e dessous. Je ne suis pas en état de prophétiser. Je ne suis pas en état de faire quoi que ce soit. Je suis au plus bas, là. Complètement abattue. Est-ce le bon moment? Est-ce le bon moment? Franchement, est-ce le bon moment pour Ézéchiel, alors qu'il est encore sous l'effet de ce qu'il a vu, sous le choc de cette prise de conscience? Sachant que le problème n'est pas résolu. Pas résolu du tout le problème. Mais c'est justement le moment parfait. C'est le moment parfait À quoi ça sert de prophétiser quelque chose quand ça s'est déjà réalisé? Dites-moi. Est-ce que c'est une fois que la chose va être exaucée qu'on va prophétiser? Qu'on va l'annoncer, la confesser? On va remercier à ce moment-là, on va rendre grâce. Ce sera le temps de l'action de grâce. Mais avant la victoire, c'est là qu'on prophétise. Avant la victoire, pas après. La prophétie, l'annonce des choses, la confession de la victoire vient avant la victoire. Et c'est ce que Dieu veut aussi enseigner à Ézéchiel. D'annoncer, de confesser, de proclamer la victoire de Dieu avant de l'avoir vue. Alors même qu'il vient de voir le contraire, qu'il vient de voir une vision catastrophique qu'il a probablement propulsé au summum d'un certain découragement, d'un désespoir. Mais au milieu de ce désespoir, voilà, il y a le souffle de l'Esprit qui nous transporte, qui nous amène dans cette perspective de victoire. Et on la proclame par avance. Donc, c'est avant. Oui. Donc, c'est le parfait moment. Et puis, c'est aussi le parfait moment justement à cause de ce qu'on a vu. À cause de ce qu'on a vu. Parce que ce qu'on a vu, ce qu'Ézéchiel a vu, l'a rempli d'un feu. Il y a le désespoir, mais il y a aussi un feu, ce désir dont je parlais tout à l'heure, que ça change, que ça change. Il a été ébranlé, il a peut-être même été réveillé par ce qu'il a vu. Il ne se rendait peut-être pas compte parce qu'il n'avait pas été transporté jusque-là, dans cet endroit. Or, elle existait déjà, cette vallée, mais lui ne la voyait pas. Et bien, dans nos vies, c'est pareil. Parfois, la chose existe, l'horreur existe, la mort est là, la dévastation est là, mais nous passons à côté, nous ne la voyons pas vraiment, voilà, jusqu'au jour où Dieu nous la révèle. Donc il y a aussi cette dimension de révélation. Dieu nous révèle la réalité et cette révélation nous porte à saisir la victoire par notre parole. C'est une dimension visionnaire en fait. Avec la vision du désastre, il y a aussi la vision de la victoire qui va avec. C'est une réaction presque naturelle de victoire, mais qui vient du Seigneur. Le Seigneur, devant la mort, il produit la vie. Voilà. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Devant la maladie, il apporte la guérison. Devant la mort, il apporte la vie. Et c'est ce qu'il met dans le cœur d'Ézéchiel. Et c'est ce qu'il met dans le cœur devant nos situations. Il fait jaillir cela. Ce qu'un psychologue ou un psychanalyste ne pourra jamais nous apporter. Il nous montrera, c'est vrai, il nous aidera à cheminer vers un constat. On verra, on comprendra, on dira « Ah oui, c'est vrai, ah !» Et puis c'est tout. Après, il nous faudra aller chercher des ressources, aller puiser des forces quelque part pour rebondir. Il faudra bien aller quelque part trouver des forces pour rebondir après avoir vu ce qu'on a vu, compris ce qu'on a compris, grâce effectivement aux soins de l'analyste. Mais le Saint-Esprit, lui, le fait en nous. Il est tout puissant pour le faire. Alléluia. Donc Dieu veut que les femmes que nous sommes, lorsqu'il nous a amenés à voir quelque chose, à discerner ce qui se passe dans nos vies, avec honnêteté, vérité, que nous nous levions en nous-mêmes, dans la faiblesse, même dans le désespoir. C'est justement au plus profond du désespoir que nous nous levons et nous disons « Maintenant, ça suffit. » Maintenant, ça suffit. Ça doit changer et ça va changer. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Et bien, le moment donc où nous entrons dans cette dimension-là et nous nous mettons à proclamer sur notre vie, à confesser la victoire par avance, c'est là qu'il veut nous emmener. C'est très concret. Très, très concret. Très concret ? D'accord ? Mais est-ce que je dois prendre le passage et puis prophétiser ça sur ma vie? Eh bien, c'est ça que tu es en train de me dire. Donc, par rapport à mon problème, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans ma chambre et puis prendre le passage d'Ézéchiel et puis le proclamer, le prophétiser. C'est ça? Il ne s'agit pas de répéter quelque chose, mes sœurs. Souvenez-vous, la parole est suscitée. La parole particulière est suscitée par la révélation particulière. Les eaux desséchées, ça peut couvrir différentes situations. de toutes sortes, différents problèmes, différentes difficultés, épreuves, liens, servitude, esclavage, souffrance, maladie. Ça, c'est votre vie. Vous, vous le savez, avec le Seigneur. Vous savez ce que os desséché, ossement desséché, à quoi ça renvoie dans vos vies. Exactement. Vous, vous le savez. Le Seigneur vous l'a montré, va vous le montrer. Avec cette révélation-là, ce discernement-là qu'il vous a donné de votre vie, vous allez avoir des paroles particulières, adaptées, appropriées. La peau, les nerfs, la chair sont des choses particulières adaptées à un corps. Tous les corps n'ont pas la même peau, la même chair, les mêmes nerfs, n'est-ce pas? Donc c'est une image pour nous faire comprendre que nous devons aussi nous attendre à Dieu dans ce qu'il va nous donner de proclamer. Ce qu'il va nous donner de proclamer. Qu'est-ce que je dois proclamer, prophétiser exactement? Eh bien, regarde par rapport à ce que Dieu t'a montré. Et va chercher dans la parole de Dieu, dans la prière, les clés de victoire, les paroles qui te correspondent. Ce sera peut-être des peurs que Dieu t'a montrées dans ta vie, insécurité, rejet, peu importe. Peut-être que le plus simple, c'est encore des témoignages. Le mien, en l'occurrence. Moi, dans ma vie, pendant plusieurs années, pour faire très court, pour des raisons que je ne vais pas expliquer là maintenant, jusqu'à l'âge de 31 ans, j'ai vécu comme un zombie, mécaniquement, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas qui j'étais. Je me contentais de faire face aux contraintes de la vie, de répondre aux besoins de la vie, aux contraintes de la vie, de ce qu'on m'imposait à droite à gauche, de subir ma vie. Mais je ne m'étais jamais posé la question, qui suis-je, qu'est-ce que je veux dans la vie et où je vais? Je ne m'étais jamais posé ces questions. Mais vraiment, jusqu'à l'âge de 31 ans, je ne me suis jamais demandé quoi que ce soit de ce genre. Parce que j'étais complètement inhibée dans ma personnalité. Je souffrais d'une profonde inhibition qui fait qu'en fait, je n'existais pas. Je n'existais pas. Je ne pouvais pas dire vraiment, véritablement, je. Très simplement, je. Je ne pouvais pas parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais complètement inhibée dans ma personnalité. Je ne le voyais pas. J'en étais absolument pas consciente. Je marchais comme ça dans la vie. J'avais j'avais l'apparence d'une personne normale. Je faisais mes études, je souriais, je riais, je pleurais. Ouais, une vie normale, quoi. En fait, pas du tout normale, la vie. Pas du tout, jusqu'au jour où Dieu me l'a montré. Il me l'a montré. Il m'a mise devant le miroir. Il m'a dit, voilà dans quel état tu es. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que « je » signifie, tu ne sais pas ce que tu veux, tu n'existes pas. Et je l'ai vu d'une façon, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai vraiment, là j'ai vu que c'était vrai, c'était totalement vrai, c'était toute ma vie. Et pire dans tout ça, c'est qu'il m'a montré qu'une personne comme ça ne sait rien donner. Une personne comme ça ne peut rien donner. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle donne puisqu'elle n'a... Elle n'a même pas conscience d'elle-même. Il faut bien partir d'un point de départ pour donner à quelqu'un. Mais il n'y a pas de point de départ. Donc tout ce que je donnais, soi-disant, n'était que du vent. Je ne savais pas donner d'amour, par exemple. Je ne savais pas aimer. Quand Dieu vous montre ça, je peux vous dire que ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Ça a été très douloureux de voir ça de moi. J'ai eu honte de moi. J'ai éprouvé de la honte, j'ai éprouvé un profond désespoir. Et je me suis dit, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment est-ce que je pourrais changer? Parce qu'immédiatement, j'ai eu le désir de changer, mais dans un premier temps, un désespoir. L'impossibilité, la montagne infranchissable. Vous voulez inventer quelque chose qui n'existe pas en vous. Vous ne pouvez pas. Je n'avais rien, je n'avais pas de quoi changer ça. Donc au départ, j'étais complètement écrasée par cette prise de conscience. Et puis le Seigneur m'a relevée. Il m'a remplie non seulement du désir, mais aussi des paroles adaptées à ma situation et de la foi nécessaire. C'est-à-dire qu'il m'a fait entrevoir que c'était possible. Il m'a montré les paroles que je devais proclamer sur ma vie. Personne ne m'avait jamais enseigné ça jusque-là. Je ne savais pas. On pouvait faire ça, il me l'a enseigné et je l'ai fait. Et les paroles que j'ai prononcées, vous savez, elles étaient très simples, mais elles m'ont complètement reconstruite parce que j'ai mis ma bouche en harmonie avec la pensée de Dieu me concernant. Et je me suis souvenue, le Seigneur m'a rappelé cette parole où il dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Vous vous souvenez de cette parole de Jésus ? En vérité, je vous le dis, qu'est-ce qu'elle est belle cette parole. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit Jésus. Cette parole, le Seigneur me l'a donnée. Et je l'ai dite, non pas avant qu'Abraham fût, je suis, mais je suis. Je suis. Je l'ai dit, je me suis dit, j'ai parlé à mon âme et j'ai rempli ma vie de cette réalité. Et c'est devenu réel. Il l'a fait. Il m'a structuré, il m'a donné une colonne vertébrale dans ma personnalité qui n'existait pas. Et je me suis saisie de ma vie avec une de ces violences, je vous le dis. Là, vraiment, il était temps que ça change. Concrètement, voilà ce que ça peut donner. Mais ça, c'était pour ce problème-là. C'est valable pour n'importe quel problème. Il y a une parole. Il y a une vérité qui va remplacer un mensonge. Et que vous allez vous appliquer. Donc je vous encourage à ouvrir votre bouche pour mettre votre parole en conformité avec les paroles et la promesse de Dieu à votre égard, concernant votre problème particulier ou vos problèmes particuliers. Au départ, si vous ne l'avez jamais fait, certains d'entre vous, je sais, savent cela et le pratiquent. Peut-être d'autres non. Si vous ne l'aviez jamais fait jusqu'à aujourd'hui, commencez dès aujourd'hui. Ne perdez pas une minute. Placez-vous vraiment sous la conduite du Saint-Esprit et commencez à ouvrir votre bouche, même si au départ ce n'est qu'un souffle, parce que vous êtes timide, parce que vous dites c'est assez audacieux quand même comme démarche, hein, t'as l'habitude de faire ça, même si au départ ce n'est qu'un souffle, timide qu'un murmure, persévérez, redites-le encore, remplissez votre cœur, c'est pas seulement votre bouche qui parle, mais vraiment, mangez cette parole. Faites-la vôtre. Appropriez-vous la promesse. Dites, c'est à moi. C'est à moi. Parce que Dieu me l'a donné. En Jésus-Christ. Ayez cette audace. Ce n'est pas une audace, en fait. C'est simplement la vérité. Et quand vous vous conformez à la parole de Dieu, la puissance de vie agit automatiquement. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas la puissance de votre, simplement de votre parole, c'est parce que vous avez aligné votre parole à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est puissance. Donc, il ne peut pas en être autrement. La parole de Dieu est puissance, vous l'appliquez à votre vie par votre propre bouche. Elle est agissante, elle agit automatiquement. Il ne peut pas en être autrement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est vivante. Alléluia. Bon, mes sœurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Et que la prochaine fois, probablement, on verra comment prophétiser. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'autorité et la façon dont on s'adresse aux eaux desséchées, justement. Voulant dire qu'on ne demande pas à Dieu des choses qu'il nous demande nous-mêmes de proclamer et de faire. Il y a différentes formes de prières et nous les chrétiens, les chrétiennes, nous sommes habitués, particulièrement habitués à la prière demande. Et pour vous donner donc une idée de ce qu'on va partager la prochaine fois, c'est, souvenez-vous du message que Ulrich nous a apporté, d'une partie du message qu'Ulrich nous a apporté, non pas hier, mais le dimanche d'avant, lorsqu'il a parlé du gendarme et du ministre de l'Intérieur. Ça vous dit quelque chose ? Voilà, on va revenir sur ces questions-là probablement la prochaine fois, mais pour le moment, nous allons nous arrêter là. Donc, on récapitule ensemble. Je veux, Seigneur, entrer dans ton plan, dans ton dessein. Je veux. Je t'ai dit oui, Seigneur. Je t'ai dit oui, tu m'as transporté. J'étais d'accord pour que tu me transportes. Je suis d'accord. Transporte-moi et montre-moi maintenant. Je suis d'accord aussi pour que tu me montres. Et je veux voir. Et le Seigneur nous montre. Je vois. Lorsque je vois, je peux éprouver un profond désespoir, un profond découragement, un abattement terrible. Mais en même temps, pendant que je suis abattue, le Seigneur fait germer en moi une nouvelle force, une vision, une foi qui vient dans les cendres de la mort qui germe là et qui agit en moi et qui me fait me lever pour croire et pour confesser ce que je crois. Et je confesse quoi ? Je confesse la parole que Dieu me donne à moi pour ma situation particulière, pour mes eaux desséchées à moi. Je prends cette parole, il me dit prophétise. Je proclame, je confesse cette chose qui me concerne. Je la dis. Ce faisant, je me mets en conformité avec Dieu, je lui obéis, je me soumets. Ce faisant, j'exerce le pouvoir qu'il m'a donné. Cette parole, la puissance du verbe que j'ai reçu. Et ce faisant, j'apprends à entrer dans mon identité, à marcher dans mon identité, qui je suis. Ce faisant, c'est ce que j'apprends aussi. Et je m'empare de cette identité. Je n'oublie plus jamais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Je vais vous demander de, pendant les chants, d'avoir la musique simplement peut-être. Je vais vous demander simplement une chose. De considérer en vous-même ce que vous voyez. Ce que vous désirez voir changer dans vos vies. Ce qui ne va pas, ce qui ne vient pas du Seigneur dans vos vies. Ce qui sème la mort dans vos vies. Chacune pour notre part, nous savons certaines choses déjà. Et Dieu nous en montrera d'autres au fur et à mesure, chaque chose en son temps. Mais pour ce que je vois aujourd'hui, que chacune puisse, dans son cœur et par sa bouche même, nous sommes entre nous ici, librement, proclamer. Il va y avoir des chants. Pendant ce temps, nous pouvons proclamer, nous pouvons confesser ces choses. Chacune pour soi-même, ou si quelqu'un, quelqu'une a besoin d'un témoin. Moi, je sais qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin d'un témoin pour dire des choses, pour les proclamer, les confesser en présence d'un témoin, quelqu'un avec qui j'étais en communion. Parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être accompagnée. Et qu'une oreille entende ce que je dis, en plus de celle du Seigneur. Ça m'a aidée. Si certaines d'entre vous ont ce besoin, venez et on sera là, votre témoin. Si d'autres ne savent pas comment faire et veulent plus tard, après la réunion, en aparté, en discuter, le faire avec l'une d'entre nous, nous sommes disponibles aussi. Alléluia. Je vais prier pour vous dans un premier temps. Et ensuite, je vous laisse vous-même faire ce que vous avez sur le cœur et dire ce que vous avez à dire pour votre âme, à votre âme. Parlez à votre âme, comme le faisait le roi David, qui disait « Mon âme ». Alléluia.